Cette émission vous est proposée avec la fantastique participation de Mathieu Duménil, Cyril Galinet, Zacharie Cortès, Victor Grébeau, Denis Vigneron, Gilles Prince, Bazin Denis, Olivier Côtes, Jean-Frédéric Pingeon et Nicolas Jound. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. Le Rendez-vous Tech, c'est l'émission bimensuelle où on vous donne une sorte de résumé condensé et simplifié pour que tout le monde puisse comprendre sur l'actualité tech, internet et gadgets. Et le plus fort de cette émission, c'est que non seulement l'actualité est résumée et simplifiée, mais qu'en plus elle reste profonde, intéressante et adapté aux gens qui s'y connaissent vraiment. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire dans cette émission. Je m'appelle Patrick Béja, je suis votre hôte, votre animateur, la personne qui vous reçoit dans notre humble podcast. Et je suis accompagné aujourd'hui pour m'aider à commenter toute l'actualité du merveilleux Jeff Clavier qui nous rejoint en direct de la Silicon Valley. Comment vas-tu, Jeff ?
Bonjour à tous, bonjour à toutes depuis la Silicon Valley, où pour une fois, il ne fait pas super beau.
Eh bien écoute, il fait un temps super pourri à Paris aussi, donc on s'est donné le mot. Quel temps fait-il à Londres, camarade Danny ?
Ah bah à Londres, il fait beau et merveilleux et chaud comme tous les jours.
Ça c'est de la propagande ça.
Tu peux baisser un tout petit peu le volume de ton micro, Danny, du coup maintenant t'es un tout petit peu trop élevé. La voix de Danny, qui est suave et douce et sucrée, ne sera pas étrangère aux oreilles des tout premiers auditeurs des podcasts que j'ai commencé à produire, et d'ailleurs même des auditeurs de longue date du Rendez-vous Tech, puisque Danny est mon camarade de jeu des tout premiers podcasts, à savoir d'Azeroth.fr, et tu as même été présent sur certains Rendez-vous Tech aussi. Ça fait quoi, 2, 3, 4 ans que t'es pas venu?
Ça doit faire deux bonnes années minimum, ouais.
Ouais, quelque chose comme ça.
Et je dois dire que c'est la voie à laquelle j'étais familière, puisque c'est comme ça qu'on s'est connus, parce que j'étais un des listeners de Azeroth.fr à l'époque, et d'ailleurs on peut faire la bise à Nat, au cas où elle nous écoute.
Oui, tout à fait.
Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas invité à faire le rendez-vous tech, Pat?
Il faudra qu'on pense à refaire un truc ensemble maintenant qu'elle est revenue sur Paris. On y réfléchira à faire au moins un petit truc sympa ensemble. On y pensera. Tu es présent avec nous, Danny. Je vais juste préciser, on sait que Jeff est venture capitaliste dans la Silicon Valley. Toi, tu es aussi impliqué dans le milieu tech, puisque j'ai appris que tu, en tant que haut responsable marketing chez Alienware, tu donnais aussi des interviews et tu parlais à des gens dans la presse et tout ça. Donc, tu es une personnalité publique maintenant, Danny.
Oui, bah je pensais que tu savais en fait, et pour la petite histoire, un jour, bah Patrick il m'envoie un tweet, je crois, ou un texto en disant mais t'es sur une interview, je savais pas que t'en faisais, etc. Oui, ça fait longtemps, j'en ai fait beaucoup.
Et je découvre, tu me dis rien, tu ne me dis plus rien, Danny.
Ouais, c'est tellement intéressant ce que je dis.
Écoute, j'espère que tu vas être au moins un peu intéressant, puisqu'on a une émission à faire maintenant, et on va se lancer immédiatement, puisque tout le monde est prêt. Jeff, ça va, Danny, ça va, c'est parfait. On va commencer à... Oui, non, tu voulais dire quelque chose, Jeff ? Oui, super.
Non, c'est bon, il n'y a pas eu de tremblement de terre depuis 48 heures. On a eu le plus gros tremblement de terre depuis que j'ai débarqué dans Silicon Valley il y a 14 ans, il y a deux jours, mais là, tout va bien.
Et il y a eu des dégâts, tout va bien
Tout va bien, parce que c'était à 100 km de chez nous, à Palo Alto. C'était centré dans la Napa Valley, donc, qui est l'endroit vinicole de la Californie. Et là, effectivement, il y a eu quand même pas mal de casses, pas mal de blessés, aucun mort, heureusement, et pas mal de dégâts au niveau bouteilles cassées.
Mais oui,
bon,
c'est ce qu'on a
bien.
Vu. Ouais, on a vu pas mal de photos sur Twitter. Mais heureusement, visiblement, le principal est sauvegardé, puisque toutes les annonces genre de Motorola et d'Apple et tout ça ne seront pas impactées en début du mois prochain. Donc
on est sauvé.
L'essentiel. Voilà,
ça aurait pu être une catastrophe, une vraie.
Bon, on va commencer avec Google, justement, qui fait des choses assez intéressantes dans le domaine de l'acquisition de nouveaux clients ou dans la rationalisation de l'accès à ses services. Ça sera à vous de juger. Et je vais me retourner vers Jeff assez vite après avoir présenté un petit peu ce sujet, parce que je pense que c'est la personne la plus concernée directement par les discussions. C'est-à-dire que Google, selon certaines rumeurs qu'on a entendues ces derniers jours, ces dernières semaines, serait en train de remettre revoir ses services web pour permettre aux enfants de moins de 13 ans d'y accéder. Il faut savoir que sur la plupart des services web, la limite d'âge, généralement, est les 13 ans. C'est-à-dire que si vous voulez utiliser Google, si vous voulez utiliser des services Google, pas le moteur de recherche bien sûr, mais des services Google, avoir un compte, si vous voulez avoir un compte Facebook, et si je ne m'abuse, un compte Twitter, la plupart de ces types de services sont a priori réservés aux gens qui ont plus de 13 ans, et quand vous signez, ou plutôt quand vous cochez la case qui dit « j'ai lu et j'accepte les conditions d'utilisation de ce service », et généralement il y a une clause qui dit « j'ai plus de 13 ans ». Et ça veut dire que même si les parents sont au courant, vous n'avez pas le droit de l'utiliser, si vous avez moins de 13 ans, évidemment. Donc, c'est une rumeur qui peut être prise de deux manières différentes. La manière la plus sanguine, je dirais, c'est « ils essayent d'avoir plus de clients et donc ils veulent ouvrir leur service au moins de 13 ans, donc la question de l'éthique se pose un petit peu ». Mais du coup, je me retourne vers Jeff parce que pour lui poser la question, puisque lui a des enfants, et je crois que je connais déjà le contre-argument qu'il va nous donner, mais je vais lui poser la question quand même directement. Jeff, qu'est-ce que tu penses de cette idée de cette histoire, de cette rumeur que Google ouvre la possibilité d'avoir des comptes aux enfants de moins de 13 ans?
Je pense que de toute façon, et comme tu le disais, Patrick, j'ai deux enfants. Un de 17 ans et une fille de 13 ans. Et ma fille de 13 ans, je pense, a collectionné des comptes sur tous les services online que tu puisses imaginer, y compris ceux qui ne sont pas accessibles aux moins de 13 ans, essentiellement en mentant sur son âge, puisque c'est déclaratif, c'est-à-dire que tu dis « ma date de naissance, c'est le temps ». Et en gros, je crois que elle a créé son compte Facebook quand elle avait 10 ans et donc elle a dit qu'à l'époque elle avait 16 ans, quelque chose comme ça. Et de fait, tu te retrouves dans un environnement où tu dois expliquer à tes enfants quels sont les risques liés au bullying et tout ce qui se passe en fait online.
Pardon, au bullying, tu veux dire bully, comme les gens qui... comment on traduit bullying en français d'ailleurs?
Je sais pas.
Les gens qui malmènent, les enfants qui malmènent les autres dans la cour de récréation. Voilà.
C'est ça, ce genre de choses.
Et qui font ça donc en ligne.
En ligne aussi. C'est pas le bullying, genre on va jouer au bullying avec des quilles et des.
Non, c'est pas le bullying, c'est le bullying.
Ok, d'accord.
Et donc, ça fait partie de ce que tu apprends à tes enfants dans le cadre de leur éducation pour être un internaute. Et je pense que le fait que Google essaie de créer des services qui sont plus compatibles aux moins de 13 ans, c'est à la fois une réponse à un besoin, puisque à un moment ou à un autre, tu sais que tu as des millions d'utilisateurs qui sont potentiellement des enfants, autant adresser leurs besoins avec un produit qui soit adapté. Et puis après, il faut quand même pas se leurrer, c'est que c'est une façon pour Google de récupérer des utilisateurs supplémentaires avec un taux de rétention qui est énorme, parce que si tu crées ton compte sur Gmail quand tu as 10 ans, quand tu auras 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, tu auras toujours ton compte sur Gmail, puisque ça devient ton identité première. Et donc, je pense qu'il y a un côté intéressé qui est essayer d'accéder à une source de nouveaux utilisateurs le plus tôt possible. La question, c'est jusqu'où ils vont aller pour développer ces fonctionnalités et quels sont les risques qu'ils vont prendre si jamais ils ne font pas un boulot à 100% sûr et que du contenu qui est a priori non accessible par les enfants de 13 ans d'un seul coup devient accessible.
Comme tu le dis, en fait, le truc dont il faut se souvenir, c'est que effectivement, c'est quelque chose qui est déjà accessible de toute façon, puisque nombre d'enfants se créent leur compte en mentant sur leur âge. Et la manière de faire ça est très très importante, effectivement. Et on a, selon encore une fois les rumeurs, il semblerait que les choses soient faites de manière assez intelligente avec ce système, c'est-à-dire qu'il y aurait des comptes qui seraient rattachés aux comptes des parents, les comptes des enfants seraient rattachés aux comptes des parents, et il y aurait des panneaux de contrôle où vous pourriez contrôler ce que peut faire et ce que peut voir votre enfant. Et de la même manière, il y aurait un YouTube, une version YouTube qui serait, comme on l'appelle en anglais, child safe, donc acceptable sûr pour les enfants. D'un autre côté, encore, je ne sais pas combien de côtés à cette histoire, mais il ne faut pas non plus se leurrer, comme tu le disais, Jeff. C'est aussi un moyen pour Google d'aller chercher de nouveaux clients, entre guillemets. Bon, il faudrait plutôt dire des utilisateurs, et des utilisateurs qui sont très captifs. Si on les chope très jeunes, ils vont rester avec les services. C'est à ce moment-là qu'il faut les avoir. On sait que les jeunes commencent à utiliser ce type de service assez jeunes. On pense à Snapchat, par exemple, qui est extrêmement populaire chez les adolescents. On se doute bien qu'ils commencent peut-être pas à 9 ou 10 ans, mais 13 ans, il est à peu près sûr qu'ils sont déjà en train d'utiliser ce type de choses.
C'est clair.
Ouais. Ouais, t'es d'accord. Dany, toi qui es quand même un grand enfant, qu'est-ce que tu penses de cette histoire ?
Il y a deux choses qui m'interpellent là-dessus. C'est la première, en fait, et c'est surtout vraiment au niveau de la sécurité. Moi, c'est ce qui m'inquiète le plus, parce que j'ai l'impression que, Excusez-moi, j'ai été déconnecté un instant. Vous m'entendez ?
Oui, tout à fait.
Ah, très bien. Et donc, en fait, moi, ce qui m'inquiète le plus, en fait, c'est au niveau de la sécurité, parce que les parents, ils vont voir, oui, une version qui est child safe pour les enfants, etc. J'ai peur qu'il y ait pas mal de gens, en fait, qui abandonnent un peu leur droit de regard et le devoir éducatif qu'on a vis-à-vis des enfants sur les dangers d'Internet. Et ça, pour moi, c'est un équilibre assez risqué.
Ouais, effectivement, c'est sûr que le problème existe. Si jamais tu te décharges de ton devoir d'explication et d'éducation avec les enfants, parce que tu dis bon bah Google, il dit que c'est assuré,
donc sécurisé. C'est bon, il y a rien à faire, on est tranquille, on est en sécurité. Et en fait, c'est pas forcément le cas. Je suis sûr qu'il y a forcément des gens qui vont arriver à contourner ces protections. Et voilà. Et enfin, disons que ce qui est le plus important là-dedans, c'est la sécurité des enfants.
Ouais, vas-y, Dany.
Mais sinon, bon, globalement, je trouve que c'est intéressant, je trouve que c'est une bonne chose. Si on met à part vraiment de côté l'aspect sécurité, c'est surtout, à mon avis, un moyen pour Google aussi de générer plus de revenus, pour avoir un maximum de contenu qui va être exclusif et dédié aux enfants, et donc avec des contenus publicitaires ou branding pour les marques qui veulent gagner en visibilité sur ce public-là.
Ce qui est marrant, tu vois, l'image que ça m'a conjuré, c'était effectivement les enfants qui, après avoir passé 2 ou 3 heures sur YouTube, tu te dis bon, c'est comme tu les mets devant un DVD, tu sais, et puis t'es tranquille pendant 2 ou 3 heures. Tu les mets 2 ou 3 heures devant YouTube, et après, évidemment, fatalement, puisque YouTube marche avec la pub, ils te reviennent en te disant papa, j'ai besoin, il faut que tu m'achètes le. Bon.
Pardon, finalement, c'est comme quand ils regardaient les dessins animés à la télévision et.
Le retargeting de ce que tes enfants en fait ont voulu acheter.
Oui, non mais attends, mais le truc c'est que c'est pas comme quand ils regardaient les trucs genre le Club Dorothée à la télé, encore qu'il y avait un petit peu de pub, mais là c'est vraiment de la pub hyper ciblée, et donc ça va être je veux que tu m'achètes le dernier petit jeu de machin ou la poupée bidule ou enfin tu vois
ça fait longtemps, mais tu te souviens pas comment pendant les 5 minutes Club Dorothée pendant les fêtes de Noël, t'avais 10 minutes de pub super ciblée sur les derniers jeux à la mode.
C'est pas faux.
Ce sera plus pointu, évidemment. C'est de la pub 2014, mais en fin de compte, finalement, le résultat est le même. C'est vraiment créer de l'envie chez les enfants pour avoir le dernier gadget, le dernier jouet que tout le monde veut.
C'est marrant parce que en fait c'est moi qui me suis mis à faire le vieux con. Je me disais ah ben avec ce YouTube ils vont nous revenir avec plein de pubs qui vont nous pourrir le cerveau de nos enfants. En fait c'est vrai que nous quand on était petits on regardait exactement les mêmes trucs et on avait exactement les mêmes pubs. Enfin,
au moins maintenant les pubs que on voit sur par le biais d'internet elles sont relativement proches de ce qui nous intéresse.
C'est vrai. Bon, donc pour cette question des enfants, je pense que, mais je comprends aussi l'autre côté de la chose, le fait que ça soit un petit peu, je sais pas, disons que ça peut mettre les gens mal à l'aise de se dire, bah ils vont aller chasser sur les terres des très jeunes. En même temps, quand on se rend compte que de toute façon ils ont leur compte, autant que les choses soient gérées sérieusement, en comprenant que ça ne dédouane pas du tout les parents du devoir d'éducation et d'explication sur Internet. Là, les gens qui nous entendent, les auditeurs du Rendez-vous Tech, je pense qu'ils sont conscients de tout ça. Il n'est pas certain que les personnes un petit peu moins averties en soient aussi conscientes. Mais allons voir de l'autre côté du spectre de la vie. Le spectre de la vie, c'est très beau, je trouve.
Juste une chose à rajouter.
Oui, pardon, vas-y.
Ça dépendra aussi de la façon dont les parents reçoivent un rapport sur ce que le gamin a regardé, etc., etc., de manière à ce qu'il puisse avoir un sens de quels sont les différents sujets, les différentes vidéos qu'ils ont regardées. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est d'essayer d'accompagner les enfants dans leur découverte du savoir. Enfin, je sais que c'est ce que moi, en tant que parent, j'aurais aimé avoir.
Ouais. Effectivement,
c'est un peu de l'espionnage quand même, hein, ce que t'es, parce que finalement, ton enfant, il a peut-être envie aussi d'avoir un jardin secret, etc. Et si tu commences à je trouve, regarder ce genre de choses, même si toi, en tant que parent, effectivement, c'est intéressant, je trouve que si tu te places du côté de l'enfant, c'est pas forcément très agréable. Donc, je pense que c'est un peu une épée à double tranchant.
C'est pas faux, ouais. Mais disons qu'il ira, le gamin ira, ou la gamine ira créer son jardin secret ailleurs.
Oui, mais bon, vaut mieux pas qu'il soit trop secret, sinon après,
oui, c'est
il peut plus superviser les enfants.
Tu sais, et là, l'enfant peut avoir son jardin secret, après ça dépend du dialogue que tu as avec eux et de la franchise que tu as par rapport aux différentes choses sur lesquelles ils vont te poser des questions. Donc effectivement, ils peuvent toujours, derrière les gamins, peuvent toujours mentir sur leur âge, sauf si effectivement Google commence à avoir un système où tu dois genre montrer une photocopie de ton passeport, un truc comme ça, ce qui
ouais,
ne font
pas, ça va
pas arriver, une friction
ouais.
absolument monstrueuse. Derrière le gamin, ils sont pas bêtes. Hein. Je peux te dire qu'à partir de 10 ans, ma gamine a commencé à créer des tonnes de trucs. La bonne chose, c'est que dès qu'elle est arrivée sur un réseau social, elle invitait ma femme en tant que premier friend. Donc on pouvait suivre systématiquement où est-ce qu'elle allait. Mais
donc vous avez réussi justement à construire cette relation de confiance avec les enfants qui est si importante pour justement pouvoir avoir de loin un œil sur ce qu'ils font sans avoir besoin de les espionner. Il n'est pas dit que tout le monde y arrive. Ouais. Donc je disais l'autre côté, l'autre extrême du spectre de la vie, c'est-à-dire quand on est vieux et qu'on meurt, qu'arrive-t-il à nos comptes et nos possessions en quelque sorte. Non, on va dire nos comptes en ligne. Il y a un État aux États-Unis, l'État du Delaware, qui pour la première fois a donné aux héritiers un accès aux données numériques des personnes qui étaient décédées. Et c'est une question qui est moins triviale que ce qu'on pourrait penser parce que ça pose des grands problèmes de confidentialité. D'une part, il peut y avoir des informations confidentielles d'une manière générale sur les comptes que vous avez qui vont vous concerner vous, mais il y a aussi des sujets un petit peu inattendus si on n'y réfléchit pas deux secondes. C'est par exemple si un médecin décède et que ses enfants récupèrent ses comptes, son compte Gmail par exemple, hein, son compte mail ou ailleurs chez un autre fournisseur de services, il risque d'avoir une correspondance privée avec ses patients. C'est un exemple comme ça, mais il peut y en avoir d'autres et peut y en avoir à vrai dire énormément d'autres. Donc là aussi, on a une question techno-légale intéressante qui se pose, et je suis pas sûr qu'il y ait une réponse facile. Est-ce qu'il faut avoir accès aux données numériques, parce que d'un autre côté, pour la dans la grande majorité des cas, j'imagine, c'est des choses qui sont quasiment impossibles à accéder quand la personne est décédée, et on peut avoir des choses qu'on voudrait garder, je sais pas, des collections de photos par exemple, et plus ça va aller, plus ça va être des choses importantes et beaucoup de choses qui vont être conservées sur ces services. Donc je sais pas s'il y a une réponse facile et mais je me retourne
Patrick,
encore vers vous.
Regarde ouais. comment par exemple dans ton exemple du médecin, comment on faisait avant qu'il y ait des ordinateurs et avant qu'il y ait internet, tout était écrit, et donc j'imagine que le jour où le médecin décède il y a une trentaine d'années, ses archives elles sont là, et donc les héritiers ils ont accès à ces archives là. Mais je pense pas qu'il y ait eu énormément, enfin, de malversations à ce sujet-là, et que c'était vraiment un gros problème de sécurité, de confidentialité.
Ah, Dany, moi qui voulais créer une sorte de scandale et de controverse, tu me ramènes à la réalité du papier.
Et oui, le papier, finalement, parce que tout le courrier, toutes les photos, tout ce qu'on avait non, qui était déjà vrai, matérialisé à l'époque, bah, finalement, quelqu'un tombera dessus, hein.
Mais comment est-ce que ça se passe, par exemple, pour un compte vous tous qui êtes riches là, je suis sûr que vous avez tous des comptes privés en Suisse et des coffres en Suisse. Est-ce que quand ton oncle qui est riche et qui décède et qui a un compte en Suisse, est-ce que on a le droit d'accéder à son compte personnel numéroté?
Ah, si t'es un de ses héritiers, bien sûr.
Ah bon, bah d'accord. Donc c'est la même chose. Ok, très bien.
Ça dépend de quelle manière le testament a été établi, etc. Mais finalement, enfin, c'est des choses qui existent depuis toujours.
Je sais pas, je sais pas pourquoi je le vois de manière un petit peu différente pour les choses numériques. C'est tellement,
c'est des biens digitaux, de la même façon que tu as des biens physiques qui sont partagés dans le cadre, et accessibles dans le cadre du testament et de sa gestion, ça fait partie de à la fois de tes legacy, donc ce que tu laisses derrière toi,
ton
et
héritage,
puis de ton, enfin legacy c'est pas héritage, enfin ouais héritage,
non, héritage
autant au sens
intellectuel,
au sens
intellectuel, ce que tu,
voilà.
Ouais c'est ça, ouais. Mmh. Oui, non t'as raison, ouais.
Et donc si tu pars du principe qu'on passe tellement de temps en ligne que ça fait partie en fait de notre héritage et de ce qui te définit, c'est logique de l'étendre.
Non, c'est vrai, c'est tout à fait exact. Je sais pas pourquoi j'avais une vision un petit peu, j'avais peut-être pas assez réfléchi, mais vous avez raison. Vous m'avez amené un éclairage nouveau sur la chose, et je pense que vous m'avez clarifié les idées. Donc, chers auditeurs, si pour vous aussi ça a été utile cette petite réflexion, venez nous le dire dans les notes de l'émission. Ça serait intéressant de savoir ce que vous en avez pensé, ou si vous avez d'autres visions de la chose justement qui font que on ne devrait pas laisser un accès ouvert à ce genre de choses. À moins que, bien sûr, si la personne qui est décédée avait mis dans son testament « Je ne veux pas que les gens aient accès à mon compte YouTube et mon compte Google et mon compte Facebook », peut-être que ça, il devrait y avoir un moyen de protéger ce type de souhait. Intéressant. Bref, j'avais d'autres sujets qui étaient un petit peu connexes, comme par exemple la manière dont Twitter gère les contenus qui devraient ou qui ne devraient pas être sur Twitter. Il y avait cette histoire absolument affreuse de la décapitation du journaliste James Foley que j'ai hésité à évoquer, et je crois que au final les sujets comme ça se résume souvent à oui, quand nous on veut faire supprimer quelque chose c'est très bien, et tout le monde aurait tendance à dire que a priori il faudrait que Twitter puisse enlever ce genre de choses, mais d'un autre côté si nous on a le droit de le faire, pourquoi est-ce que les censeurs chinois par exemple, hein, je prends cet exemple tout à fait au hasard, n'auraient pas le droit de le faire aussi, et pourquoi est-ce qu'on s'insurge quand les censeurs chinois le font? Évidemment c'est une question théorique, je crois que dans la pratique on se rend bien compte de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas, mais il est difficile d'établir des règles qui vont faire cette distinction. Donc,
Free speech, c'est donc
la liberté de parole.
Liberté de parole, c'est vraiment la planche savonnée, parce que c'est difficile de savoir où tu mets la barrière du ouais, mais ça c'est acceptable et ça l'est pas, parce que tout dépend
exactement,
de ton point de vue.
Ouais. Et d'ailleurs, la liberté de parole, qui est sacro-sainte aux États-Unis, qui est étonnamment aussi, pas aussi sacro-sainte sur le vieux continent, elle est limitée partout. Si on commence à parler de au hasard de pédophilie, je pense qu'il n'y aura personne pour aller invoquer la liberté de parole pour laisser ce genre de contenu disponible. Donc, effectivement, c'est toujours le genre de débat qui est, bah, tu l'as très bien dit, Jeff, c'est vraiment la planche savonnée, quoi. Mais bon, passons à un autre sujet, un petit peu plus joyeux, un petit peu plus léger en tout cas, le sujet de la Gamescom et de la fête du jeu vidéo que c'est en général. Comme vous le savez, moi je peux pas forcément en parler en grand détail du fait de ma situation professionnelle, mais on va quand même en évoquer quelques sujets. La Gamescom, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le plus grand salon de jeux vidéo public au monde. C'est un salon absolument immense qui a lieu à Cologne tous les ans. Et qui avait eu lieu donc au mois d'août, il y a deux semaines, au moment où on enregistre cette émission. Il se trouve que Dany et moi y étions tous les deux pour des raisons professionnelles et on a eu le plaisir de se croiser une ou deux fois là-bas. Et il y avait aussi d'autres sociétés assez importantes, comme au hasard Sony et Microsoft, qui étaient présents et qui ont fait différentes annonces, dont on va essayer de vous résumer rapidement les plus gros sujets. D'abord, en commençant par la conférence de Sony, qui a annoncé 10 millions de PlayStation 4 vendus au consommateurs, parce que il faut savoir que quand on parle des produits vendus dans la distribution, dans la grande distribution, dans la distribution tout court d'ailleurs, petite et grande, on parle parfois de sell in et ensuite de sell through. Je le dis avec un accent français. Sell in, c'est les produits qui ont été vendus aux boutiques, et sell through, c'est les produits qui sont passés jusqu'au consommateur, donc qui ont été vendus aux consommateurs. La raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est que c'est important pour analyser les chiffres que nous donnent les constructeurs souvent. On parle de jeux vidéo, on peut parler de tout type de produits tech ou autres d'ailleurs. Souvent, les constructeurs vont nous donner les chiffres de vente en sell-in, c'est-à-dire les produits qui ont été vendus aux boutiques, qui peuvent rester dans les boutiques dans des piles immenses pendant des mois et des mois. Ça ne veut pas dire qu'ils ont trouvé acheteur. En l'occurrence, Sony nous a bien insisté. Oula, quelqu'un s'est cassé la gueule ? Non, ok. Sony a bien insisté sur le fait que c'était vendu aux consommateurs, 10 millions de PlayStation 4, pour faire un petit peu la nique à Microsoft qui avait annoncé il y a un long moment un chiffre bien moindre de consoles Xbox One vendues aux consommateurs. On pense qu'aujourd'hui, ils sont à peu près, c'est des estimations parce qu'ils n'ont pas donné de chiffre, mais Microsoft de l'autre côté est à peu près à 5 millions de consoles vendues aux consommateurs, donc contre 10 millions pour la PlayStation 4. Vous vous attendiez un chiffre aussi élevé, c'est quand même un chiffre important, non? Les 10 millions pour Sony, on est à même pas un an après la sortie de la machine.
Personnellement, ça m'étonne pas tant que ça, parce que je trouve que Sony a réussi à rectifier toutes les critiques que les consommateurs leur avaient fait sur les depuis le lancement de la PS3 en fait. Et rien que le fait d'avoir atteint un prix de lancement de 399 €, pour moi, c'était déjà montrer qu'ils ont écouté leurs fans et leurs clients, contrairement à Microsoft qui a essayé plutôt de prendre une optique très orientée, disons technologique, regarder notre Kinect comme il est beau, ouais. et de se différencier en fait de la PlayStation 4.
Oui, beaucoup de gens ont dit effectivement que Microsoft avait fait à cette génération l'erreur qu'avait fait Sony à la génération précédente, qui était de ne pas penser à leur cœur de cible. Et maintenant, ils sont évidemment en train d'essayer de rectifier le tir. On va en parler.
Et je pense aussi que c'est vraiment une question de prix et tout simplement à machine comparable. Ouais. Et quoi qu'on en dise, elles sont comparables technologiquement. Effectivement, enfin, 100 € de différence, c'est énorme.
Surtout quand on n'a pas d'explications concrètes pour la différence de prix. Il n'y avait pas de... Alors oui, le Kinect était un accessoire intéressant, et je dis était, on va y revenir un petit peu plus tard, mais malheureusement, il n'y avait pas eu de preuves pratiques, d'exemples pratiques sur ce que ça pouvait apporter. Une autre petite nouvelle donc qui est sortie de la conférence de Sony, c'est le SharePlay, qui est une fonctionnalité qui permet à n'importe lequel de vos amis sur le PlayStation Network de venir jouer avec vous sur un jeu que vous avez acheté, même si lui ne l'a pas acheté. C'est-à-dire que cette fonctionnalité utilise le fameux streaming de jeux en vidéo dont on vous parle depuis des années dans le Rendez-vous Tech avec OnLive et ce genre de choses. Vous savez, le truc auquel Yann ne croyait pas du tout. Donc, il utiliserait le streaming de jeux vidéo pour faire venir un ami à vous pour, qui va jouer avec vous. C'est comme, il donnait cet exemple de la manette qu'on passe quand on est sur le même canapé. Et aujourd'hui, on est plus souvent sur le même canapé et donc on n'a plus l'occasion de faire ce genre de choses. Là, ça serait possible pendant une heure avec n'importe quel jeu que vous avez acheté. Un ami peut venir jouer avec vous. Alors franchement, c'est une fonctionnalité qui, sur le concept, est très intéressante. D'autant plus que, comme je le disais, votre ami n'a pas besoin d'avoir acheté le jeu. C'est juste un truc pour s'amuser ensemble qui est facilement accessible. Bien sûr, l'idée étant que ça lui donne envie d'acheter le jeu ensuite, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'ils sont en train de couper l'herbe sous le pied avec ce type de fonctionnalité qui faisait partie de l'annonce de Microsoft pour la Xbox One, dans une forme différente, mais tout de même, ce type de flexibilité qu'offrent les contenus digitaux. Et ils sont non seulement, ils ont pris le de l'avance sur le nombre de produits vendus avec une offre solide, mais en plus maintenant, ils sont en train de revenir à la charge pour prendre encore plus d'avance sur le côté offre numérique et partage numérique, alors que c'était quelque chose que Microsoft aurait pu mettre en avant s'ils avaient mieux formé leur message et leur manière de communiquer. Moi, ça m'a vraiment marqué et c'est quelque chose qui pourrait vraiment m'intéresser. Jeff, toi, t'es joueur console ou t'es plutôt PC ?
Moi, j'ai en fait arrêté de jouer il y a 3-4 ans. J'étais essentiellement joueur PC. Mes investissements dans le jeu étaient essentiellement social gaming ou PC gaming. Tu connais Curse, la boîte dans laquelle j'ai investi il y a 6 ans. Et donc Kurt commence à vraiment prendre une bonne position sur des jeux consoles, donc on commence à se poser la problématique de parc, de qu'est-ce qui se développe, de quel jeu il faut supporter, etc. Mais en fait je suis resté de façon prédominante PC Mac, quoi.
Ouais, donc les PlayStation et tout ça, c'est pas ton... Moi, j'avoue que je suis quand même, pour ceux qui connaissent cette expression, PC Master Race. Donc, je préfère quand même mon PC, mais c'est vrai que j'aime beaucoup mes consoles aussi. Bref, le SharePlay, c'est une fonctionnalité qui devrait arriver avec une prochaine mise à jour de la PlayStation. C'est quelque chose qui est intéressant, et surtout, je suis curieux de voir jusqu'où ils vont amener ce type de fonctionnalité.
On parlait Moi, ce que j'aimerais savoir surtout, c'est au bout d'une heure, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu vas pouvoir te reconnecter sur la partie de ton ami avec un petit temps de déconnexion, ou est-ce qu'au contraire tu vas être bloqué pendant
Moi, je pense que c'est une fonctionnalité pour essayer le jeu,
oui,
mais
pour l'essayer et surtout temps, pour donner envie de l'acheter.
En même temps, j'imagine que les éditeurs pourraient décider de mettre à jour, enfin d'autoriser d'autres types de fonctionnalités de ce type qui seraient pas limitées à ce SharePlay. En fait, là, le SharePlay, c'est par défaut sur tous les jeux du PlayStation Network. Les éditeurs peuvent supprimer cette fonctionnalité, l'interdire, mais par contre, j'imagine qu'il est envisageable à terme d'avoir ce type de fonctionnalité. Là, ils commencent à tester les choses, mais à terme, pourquoi pas ouvrir ces fonctionnalités un peu plus. Je me souviens plus sur quelle plateforme, mais il y a un jeu qui sera jouable avec n'importe quel ami. Je me demande si c'est pas Far Cry 3 d'ailleurs, qui sera jouable avec n'importe quel ami, même s'il n'a pas ce jeu pendant, effectivement, avec une limitation aussi. Mais bon, bref.
C'est la notion de viralité appliquée à leur réseau. Voilà. Donc, je vois pas pourquoi ils auraient un problème avec ça, parce que justement, c'est ce qui a rendu à ce jour tester ou jouer des jeux, donc try before you buy, essaye avant d'acheter, c'est difficile sur un truc comme la PlayStation. Donc c'est un super développement, et au niveau de technique, c'était pas évident, comme tu le dis. Avec Yann, dans les débuts du Rendez-vous Tech, on était très très
sceptique, ouais.
Sceptique. J'arrive pas à parler français aujourd'hui. Et effectivement, la technologie s'est développée, on a des bandes passantes maintenant qui sont largement supérieures, donc on peut le faire.
Ouais. Moi, ce que je me demande, en fait, c'est dans ce cas, pourquoi est-ce qu'ils passent uniquement par le SharePlay et qu'ils font pas justement un try before you buy, puisque finalement ça pourrait être les mêmes limitations, et si t'as envie d'essayer un jeu, tu peux y jouer une heure à la version.
Je pense que ça va venir.
Je vois ça, pour moi, oui, c'est effectivement, je suis quasiment certain que c'est une phase de test qui va évoluer là-dessus. Mais moi, ce que j'attends surtout, c'est vraiment le partage de la de la ludothèque librairie dématérialisée, comme il y aurait sur Steam avec, avec les amis.
Oui, oui, effectivement, ça c'est quelque chose d'intéressant. Et c'était une chose qui était proposée justement par Microsoft, une fonctionnalité hyper intéressante, le partage de la, l'ensemble des jeux que vous aviez avec des amis, mais qui a été complètement noyé par leur communication assez désastreuse. Et d'ailleurs, on a aujourd'hui une des conséquences de ces erreurs, qui est que avec leur conférence à la Gamescom, on a eu la confirmation finalement que le Kinect, cet accessoire, cette caméra qui vous permet de jouer sans manette parce qu'elle vous voit et vous pouvez faire des gesticulations devant votre Xbox et qui vous permet aussi de la contrôler à la voix, etc., etc. Et ben ce Kinect est a priori définitivement mort et enterré. Non pas qu'ils arrêtent de le vendre, mais par contre ils ne l'ont pas évoqué une seule fois pendant toute la Gamescom, ou si peut-être une petite mention en passant. Ça veut dire qu'ils sont, d'une part, qu'ils ont de gros problèmes avec la manière dont je l'analyse, c'est qu'ils ont vraiment de gros problèmes avec la vente de la Xbox, et donc ils se concentrent de manière presque paniquée sur les joueurs, parce que le Kinect, beaucoup de gens leur reprochaient que ça n'était pas un accessoire qui était vraiment utilisé pour les jeux et que c'était quelque chose dont on ne comprenait pas l'utilité. Et ben là ils ont dit au revoir le Kinect, on n'en parle plus, peut-être qu'il reviendra après, et c'est même souhaitable parce que c'est un accessoire intéressant, mais pour le moment on se concentre absolument sur les jeux. Donc jusque là j'hésitais encore un petit peu à m'acheter une Xbox One sans Kinect, parce que je m'en achèterais une, bien sûr, j'ai déjà une PlayStation 4, je vais avoir toutes les consoles à un moment, mais le jour où je vais acheter une Xbox One, je pense que ça sera une Xbox One sans Kinect, parce que j'en vois plus vraiment l'utilité aujourd'hui.
Tu voyais à l'époque une utilité au Kinect ?
Non, mais je voyais un espoir d'utilité. Tu vois, je me disais peut-être que à un moment, ils avaient été tellement, ils insistaient tellement sur le fait que le Kinect était une partie intégrante de l'expérience Xbox. Je me disais ils préparent des choses. Là, je me dis je pense même plus qu'ils préparent des choses. Et admettons même qu'ils préparent des choses, il sera toujours temps d'acheter un Kinect plus tard. C'est plus du tout essentiel aujourd'hui à l'expérience.
Moi, je regrette qu'ils aient pas prévu dès le lancement une super killer app qui permettait de démontrer quel était l'intérêt du Kinect pour les vrais joueurs et pas uniquement pour les enfants qui veulent aller faire un tour à Disneyland ou jouer avec les tigres et les bébés lions.
Ça, je pense que il le regrette aussi amèrement. Hein. Mais la question en fait qui se pose vraiment, c'est est-ce qu'il y a vraiment une utilisation ludique du Kinect ? Ludique, oui, certainement, mais gamer du Kinect, qui est leur cœur de cible qu'ils ont un petit peu oublié. Et là, ça fait quelques années que le Kinect existe sur Xbox 360, ça fait quelques années que le motion gaming, comme on l'appelle, existe, et on n'a toujours pas eu... Alors, il y a des jeux qui sont adaptés, qui sont sympas, mais on n'a toujours pas eu d'exemple de réalisation convaincante pour les vrais core gamers,
joueurs. Tu te souviens des jeux d'arcade qu'il y avait au Japon il y a 10 ou 15 ans, qui a eu
oui, bien sûr.
De webcam, ils étaient très sympas, hein, donc... Il y a moyen de faire quelque chose, hein.
Ah quelque chose, oui, mais bon, ensuite c'est un autre débat. Mais là, c'est différent quand tu vas jouer 5 minutes sur ton jeu d'arcade et quand tu es chez toi à la maison et que tu vas jouer pendant 1, 2, 3 heures.
Écoute, je vais dire quelque chose qui va nous mettre tous d'accord déjà de base. Oui, c'est d'accord. Déjà, il faut qu'il y ait des jeux sur Kinect pour qu'ils soient appréciables. Voilà.
Bon, je te laisse ce mot de la fin. On a aussi l'annonce de l'exclusivité timée de Tomb Raider pour Xbox One. Ça veut dire que pendant un certain temps, 6 mois, 1 an, on ne sait pas très bien, Tomb Raider, le prochain Tomb Raider, j'ai beaucoup aimé le dernier là, sera sur Xbox One uniquement. Et à vrai dire, ça pourrait être un jeu. J'adore les Uncharted et ce type de jeu. Et celui-là pourrait être celui qui me convaincrait d'acheter une Xbox One. À vrai dire, j'en aurais sans doute acheté une avant pour faire la collection des Halo, que j'ai jamais été un joueur de Halo. Il y a une collection Halo avec tous les jeux Halo qui arrivent sur Xbox One ce Noël. Je me demande si ça me fera pas craquer. Bref, d'autres news de jeux. Microsoft qui a montré DeLorean, qui est une technique pour créer un service de cloud gaming, donc vidéo, comme on en parlait tout à l'heure pour Sony, prédictif. C'est-à-dire que de manière à éliminer complètement la latence, et là ça devient techniquement intéressant même au sujet de la tech pure, ils vont vous envoyer des images pour différentes actions que vous pourriez faire. C'est-à-dire que au lieu d'attendre que vous appuyiez sur la manette pour afficher l'image qui correspondrait, donc avec un petit temps de latence parce qu'il doit calculer cette image, eh bien, il envoie à l'avance 3 ou 4 ou 5 différentes séries d'images pour les différentes actions que vous pourriez prendre. Et une fois que vous l'avez pris, bah, il vous l'affiche tout de suite. Donc, il prédit en permanence plusieurs fois par seconde ce que vous allez faire, à vrai dire beaucoup de fois par seconde ce que vous allez faire. Il envoie les images et ça lui permet de d'éliminer en fait concrètement le lag. C'est une idée intéressante. Il faudra voir comment ça marche concrètement, mais il y a ils ont fait des tests et ils se sont rendu compte que des utilisateurs lambda n'arrivaient pas à faire la différence entre un jeu qui tournait chez vous directement et un jeu qui tournait en cloud gaming. C'est une promesse intéressante, faudra voir ce que ça donne effectivement dans les faits, mais en tout cas ce que ça montre c'est que Microsoft s'intéresse eux aussi, et c'est presque une confirmation de l'évidence, à cette technologie. Et dernier sujet, vous vous souvenez que Twitch, ce service de streaming vidéo dont on avait entendu des rumeurs, c'est un streaming vidéo de jeux vidéo, on avait entendu des rumeurs selon lesquelles Google serait sur les rangs pour acheter Twitch pour $1 milliard, eh bien les informations qu'on a eues aujourd'hui, les rumeurs, ça n'est encore que des rumeurs, seraient que ça serait Amazon qui serait sur les rangs, et la confirmation pourrait arriver selon le Wall Street Journal aujourd'hui même aux États-Unis. Donc
Elle est arrivée. Ouais.
D'accord.
C'était posté sur le site de Amazon qui confirme leur achat pour $970 million.
Ouf, d'accord. 960. Je sais pas très bien quoi en penser de Amazon qui achète Twitch. Est-ce que c'est mieux que Google? Est-ce que c'est moins bien que Google? Je sais pas.
Bah, c'est super bizarre, en fait, parce que ça fait des mois qu'on a entendu la rumeur du rachat de Twitch par YouTube. Et ce qui était assez rigolo, c'est que dans les sphères de la vallée, t'avais les gus de Twitch qui disaient non, c'est pas en train de, le deal est pas fait. Et on avait d'autres mecs de Twitch qui disaient c'est en train de se faire. Et on a essayé de creuser et on avait vraiment deux choses complètement bizarres qui se contredisaient. C'était: un, Twitch est définitivement racheté pour en gros 1 milliard, et non, YouTube ne rachète pas Twitch. Et on comprenait pas. Et en fait, c'est parce qu'il y avait cette négociation avec Amazon en parallèle, on imagine, et a priori Yahoo était aussi sur les rangs. Ils avaient offert 1,5 milliard, parce que Marissa doit surpayer évidemment. Et les négociations n'ont pas été successful, et donc c'est 970 millions par Amazon. Bravo à Twitch, parce que c'était pas évident. Faut se rappeler que Twitch, initialement, c'était Justin TV, donc ce service où tu avais une webcam attachée à la tête qui, en gros, faisait te permettait d'enregistrer tout ce que tu faisais. Et c'était un peu goofy, parce que c'était dans les années 2007-2008.
Et donc, oui, c'était un type qui avait commencé en streamant toute sa vie 24 heures sur 24, puis qu'il avait étendu comme service de streaming pour d'autres personnes, enfin pour n'importe qui, et voilà. Et ça a évolué de là, ouais.
Et puis ça a évolué, et à un moment ils ont séparé le service en deux, donc d'un côté SocialCam qui a été racheté pour 65 millions, et donc Twitch qui a été racheté pour 970. Donc clairement, cette notion de streaming live de contenu de gaming a beaucoup de succès, et quand on voit un peu Twitch, donc 970 versus les autres acteurs sur le marché comme Machinima qui ne fait pas aussi bien, bah clairement Twitch a vraiment très bien exécuté.
Oui, c'est certain, ils ont fait une belle opération, et surtout Twitch est promis un très bel avenir. On peut se poser la question de ce que va être cet avenir au sein d'Amazon, mais ils se sont recentrés sur les jeux depuis quelques mois. Ils ont même un studio de développement de jeux, etc., avec leur Fire TV, notamment leur box pour la télé qui offre des jeux aussi. Amazon a pour habitude d'acquérir des services et de les laisser tourner tels qu'ils sont de manière sérieuse et de manière indépendante, ou plus ou moins indépendante. Donc on peut se dire que Twitch continuera à tourner aussi. Il y a une chose quand même qui me vient à l'esprit, c'est que c'est sans doute pour la question de la concurrence une bonne chose que Google n'ait pas acquis Twitch, parce que Twitch, d'une certaine manière, offre une certaine concurrence à YouTube pour le gaming. Et on sait que les jeux sont un des centres essentiels de succès pour YouTube. Et donc, même si c'est pas tout à fait la même chose qu'ils font, je me dis c'est peut-être mieux que Twitch et YouTube restent séparés pour qu'il y ait une concurrence saine. Et entre parenthèses, je sais pas si vous savez, mais enfin pour ceux que ça intéresse, il y a un autre service de streaming de vidéos, de jeux vidéo, qui s'appelle Hitbox, qui vient enfin qui existe depuis quelques mois. C'est des Allemands. Donc si vous vous dites ah mon Dieu, Twitch est chez Amazon maintenant, donc c'est terminé, c'est lamentable maintenant, c'est la fin de Twitch, et ben vous pouvez aller voir chez Hitbox, et en plus c'est des Européens, donc voilà.
Et puis vous pouvez toujours aussi aller chez Ustream, pas que je le mentionne parce que c'est un de mes investissements, mais bon.
Ustream, j'avoue que c'est plus forcément le truc le plus d'actualité aujourd'hui, hein. Moi je vois plus beaucoup de gens qui utilisent Ustream. Ils ont ça se passe quand même toujours bien chez Ustream ou
Oui, bah ils ont grossi quand même énormément. Simplement, ils ont élargi la plateforme de manière à être plus un fournisseur de SaaS, donc software as a service, pour les gens qui veulent utiliser le streaming dans le cadre de leur plateforme promotionnelle, etc. Donc c'est là où ils ont fait un choix en termes de monétisation, où avant c'était essentiellement de la pub, et maintenant ils ont grossi de façon assez importante sur la partie donc juste infrastructure.
Ouais, c'est vrai qu'on a utilisé Ustream longtemps, hein, d'ailleurs, nous aussi. Mais bon, ils ont un petit peu changé d'orientation. On a arrêté de les utiliser quand il y a eu cette orientation très claire sur la monétisation par le paiement. Ce qui, entre parenthèses, n'est pas encore gagné pour Twitch et les autres. Hein. On n'est plus sur des affaires de pub et je suis pas certain qu'ils rentrent assez d'argent pour être rentables. Mais bon, c'est une autre question qu'on étudiera sans doute à l'avenir. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je vais quand même donner la parole à Dany sur cette histoire de Twitch. Tu travailles avec des gens qui utilisent beaucoup Twitch.
Évidemment. De toute façon, Twitch, c'est la plateforme incontournable.
C'est incontournable maintenant.
Tout ce qui est, vidéo et gaming, hein, ça c'est clair. Maintenant, moi, ce que je me demande, c'est quelle va être la prochaine étape d'Amazon, en fait, pour parce que bon, on voit effectivement qu'ils ont lancé le Fire TV, ils ont racheté Twitch. Je pense qu'ils ont l'air ils ont l'air de se réorienter aussi en partie vers le gaming. Et donc, quelle va être la prochaine étape? Parce que finalement, c'est je pense que c'est qu'une étape vers quelque chose d'autre.
Oui, c'est une bonne question. Oui, comment ils vont continuer à se développer? Je serais curieux de le savoir aussi. On va conclure notre partie des trois infos à retenir, notre partie principale, avec un anniversaire qui m'est particulièrement cher et qui, je pense, vous le sera aussi. C'est l'anniversaire des podcasts. La date précise est un petit peu difficile à déterminer. La paternité est un petit peu difficile à déterminer aussi de manière précise. On pourrait dire que, enfin, il y a différentes personnes qui disent différentes choses, mais en gros, la date la plus communément acceptée, c'est le 13 août 2004. Un ancien DJ de MTV qui s'appelle Adam Curry a enregistré une émission qui s'appelait le Daily Source Code. C'est lui en fait la personne communément acceptée comme le père du podcasting, qui lui a donné la forme qu'elle a aujourd'hui, même si beaucoup d'autres personnes y ont contribué. Et ça fait 10 ans déjà. C'est marrant la vie du podcasting. Alors au tout début, en 2004, c'était vraiment quelque chose de tout nouveau que les gens découvraient à peine. Moi, je me souviens que en 2005, Apple lui a amené ses lettres de noblesse en le mettant sur l'iTunes Store, qui en même temps l'a un petit peu enfermé dessus, mais qui lui a apporté un public énorme qu'il n'aurait pas pu avoir autrement. C'était en 2005. 2006, moi, j'ai découvert les podcasts, donc assez vite finalement, hein, 2006, début de l'année 2006, et puis j'ai lancé ma première émission en septembre 2006. J'avais participé à d'autres émissions avant, septembre 2006, et là, on était dans une période sur les 2-3 années qui ont suivi où les gens se sont dit, le podcast, ça va révolutionner le monde, c'est le remplacement de la radio, de la télé, ça y est, c'est la libéralisation des médias et tout. Et évidemment, on a vu que ça n'avait pas été aussi loin que ça. Moi, j'avoue que j'ai jamais cru à un truc aussi enthousiaste. Mais on a eu ensuite une sorte de retour de bâton vers 2010-2011, y a des gens qui se sont dit « Ah mais ouais, non, en fait, le podcast, c'est mort, ça sert à rien, c'est un truc qui n'ira nulle part et on va l'oublier. » Et finalement, depuis 2-3 ans, on a une sorte de stabilisation et le podcast est certainement pas mort. Il occupe une place très très présente dans le paysage audiovisuel. J'ai pas peur de le dire, hein, il y a beaucoup de gens, il y avait une étude aux États-Unis qui montrait que je sais plus 15% des Américains avaient déjà écouté un podcast ou écoutaient un podcast. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui connaissent ce média, c'est pas un truc complètement obscur que 0,5 ou 1% des gens écoutent, mais il y a 15%, il y a une place spécifique pour les podcasts qui est différente de celle de la radio ou de la télé ou de la presse ou des sites web ou de YouTube ou de ce genre de choses, qui à mon avis ne va pas disparaître, va même potentiellement continuer à grossir un peu, mais qui a une place très spécifique, et particulièrement les podcasts audio. Vous me direz pas de contraire, hein, chers auditeurs, puisque c'est quelque chose qui vous plaît, puisque vous écoutez le son de ma voix maintenant, mais c'est quelque chose qui à mon sens a vraiment sa place et qui est très différent de ce qui se fait ailleurs. Donc, on va voir comment ça va continuer à l'avenir, mais je pense qu'aujourd'hui, la place du podcast est stabilisée et un petit peu clarifiée, et il est très présent. Tout le monde, la plupart des grands médias, en tout cas audio, utilisent d'une manière ou d'une autre les podcasts. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, c'est pas forcément.
Moi je pense que pour les podcasts, hein, c'est enfin le grand intérêt pour je pense hein pour les auditeurs, c'est que finalement c'est audio, ils peuvent faire quelque chose d'autre tout en écoutant des conversations, des discussions, des débats intéressants. C'est l'avantage par rapport à regarder une vidéo finalement sur YouTube où enfin si tu veux vraiment te mettre dedans, bah tu dois rester concentré de A à Z. Tandis que là, tu peux vraiment, enfin, conduire, tu peux remplacer tes MP3 d'autoradio par une sélection de podcasts, et finalement, bah, voilà, c'est un marché qui existe,
c'est sûr.
Qui reste stable.
C'est sûr. Et en plus, il y a quelque chose, ça, c'est dans la forme, je pense que dans le fond aussi, il y a quelque chose de très particulier dans les podcasts, c'est la capacité qu'on a par ce média à amener l'audience dans le groupe des gens qui parlent. On a vraiment l'impression d'écouter, d'être avec les gens qui parlent, et c'est une conversation sympa qu'on a tous ensemble, en fait. Et il y a cette proximité, très sincèrement, vous, quand vous m'écoutez, quand les auditeurs vous m'écoutez, bah, je vous invite chez moi, finalement. Je parle normalement, je parle pas comme à la radio avec un ton journalistique un petit peu débile. Ça veut pas dire que je suis pas sérieux dans ce que je fais, mais vous me connaissez, quoi. Je suis complètement, si on se rencontrait dans la rue et qu'on s'arrêtait pour prendre un café ensemble, je serais exactement comme ça. Et c'est quelque chose qui est très particulier au podcast, qui est presque unique pour ce type de média. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de spécial dans ce,
voilà,
de magique.
Je suis quand même
dans les
pas
podcasts.
trop d'accord, parce que, honnêtement, je pense que si tu faisais des vidéos sur YouTube, tu serais aussi sympathique, aussi accueillant, et on aurait l'impression d'être à côté de toi de toute façon.
Ah, mais tu me donnes des idées, Dani.
Ah, il faudrait peut-être que tu fasses de la vidéo.
Bon, je sais pas si Jeff, je sais que tu dois y aller bientôt, si t'as un truc à ajouter là-dessus, ou si tu dois disparaître dans le vent de la Silicon Valley.
Je vais disparaître rapidement, mais j'ai quand même quelques points de vue. Donc, effectivement, je me rappelle du temps où Daily Source Code, c'était le premier podcast, et comme c'était un big deal, enfin, c'était difficile d'accéder au contenu, de voir comment tu l'écoutais, etc. Donc, c'est vraiment la problématique de la création du contenu, la distribution du contenu, comment tu vas le consommer. Et quand tu regardes, en fait, toutes les avancées technologiques qu'ont amené iTunes, l'iPhone, etc., ça a contribué, en fait, à l'adoption du podcast comme un médium qui va fonctionner. Et la dernière question, c'était la monétisation. Donc, comment est-ce que tu tournes cette plateforme qui était plutôt orientée vers les gens qui étaient des passionnés, qui souhaitaient partager avec leur audience, vers quelque chose de plus professionnel où tu peux effectivement créer un business, faire de l'argent. Et je pense que ton expérimentation avec Patreon, qui te permet donc de monétiser un petit peu grâce aux gens qui nous supportent, prouve que tu peux développer en fait le côté business. Donc ça veut dire création, distribution, la partie intégration de plateformes pour la consommation et la monétisation. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne voit pas, si tu veux, un renouveau sur les plateformes de podcasts, parce qu'il y a en 2006, 2007, il y avait des tonnes de plateformes de création, de monétisation, de podcasts qui ont disparu.
Pendant quelques années, il y en avait plein. Ouais.
Qui ont toutes disparu les unes après les autres. J'avais investi dans une d'elles en 2005 ou 2006. Et ils avaient pivoté très rapidement et in fine, la boîte n'a pas fonctionné. Et c'est de là en fait qu'est né Twitter, puisque la première boîte, Dave Williams, n'avait pas fonctionné, et Twitter on est né en fait des cendres de cette boîte de podcast, et donc qui s'appelait Audio. Et donc effectivement, on voit en fait la courbe d'évolution des podcasts et le fait que aux alentours de 2009-2010, ils ont commencé à disparaître en termes de popularité. La popularité est vraiment descendue. Et puis là, en fait, on a le renouveau du podcast. On en voit beaucoup plus. C'est devenu un médium qui est assez utilisé. Et on verra un peu où ça va, quoi.
C'est vrai que ce qu'on n'a pas dit, c'est que l'arrivée des téléphones mobiles a été une vraie chance pour ce média, parce que ça simplifie tout. Tu as une app sur ton téléphone, tu le télécharges tes émissions, enfin tu t'abonnes, tu les télécharges automatiquement, et puis il est toujours avec toi. C'est quelque chose de beaucoup plus simple que ce qu'on avait à faire avant pour le podcast, pour ceux qui s'en souviennent, synchronisation sur iTunes, tout ça, parce que finalement, c'est ce que tu disais, Dani, il y a tu l'écoutes quand tu fais autre chose. Et je dirais, j'ai fini par être un petit peu d'accord avec toi, Dani, sur la question de on pourrait le faire en vidéo, mais je suis pas tout à fait certain, en fait, parce que c'est le type d'intimité qui se développe et qui s'acquiert au bout d'un certain temps. On peut pas faire 10, 15, 20 minutes et puis avoir ce type de relation avec son public. Il faut des émissions un petit peu plus longues, je pense. Moi, c'est quelque chose qui se développe, je pense, parce que on passe autant de temps à parler ensemble, finalement. Et sur la vidéo, c'est pas le même type d'émission qu'on va faire. Les gens vont pas regarder pendant une heure et demie des gens assis sur un canapé, ou en tout cas.
Je suis tout à fait d'accord. Tu prêches un converti. Hein. Je pense que podcast, de toute façon, c'est un format qui, par le biais de son existence, c'est plutôt une discussion, une conversation, ouais, un débat. Donc finalement, une vidéo, tu peux pas regarder une heure et demie de rendez-vous tech. Je pense que ce serait un tirer une balle.
Ouais, peut-être il y a des gens qui le font, hein, ou alors tu peux l'agrémenter d'autres choses. Mais puis Geeking, c'est très bien, par exemple. Il y avait à l'époque Dignation, que moi je regardais religieusement, mais c'est un petit peu différent et c'est pas tout à fait le même type de portée, quoi. Peut-être, ouais. Mais bon, on sait jamais, il y a des gens qui m'ont fait mentir par le passé, et je conclus avec ce que tu disais, Jeff, effectivement, la question de la monétisation, c'est quelque chose d'assez, qui a été un problème pendant très longtemps et qui maintenant est peut-être en train de trouver une solution. C'est que les gens qui écoutent ces émissions sont parfois, et même assez souvent, prêts à donner de l'argent pour que l'émission continue, ou en tout cas pour la soutenir, hein, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne avec le podcast, en particulier audio. Pourquoi ? Parce que un podcast audio peut être produit par une seule personne, peut-être deux personnes si on a besoin d'autres choses. Et donc, on peut générer des revenus qui peuvent être intéressants avec une voilure aussi réduite. Donc, c'est quelque chose qui est évidemment très différent quand on parle d'autres types de produits et d'autres types de médias. Justement, on parlait de monétisation et de contribution. Je vais te laisser filer, Jeff, si tu dois partir, avant de remercier encore des gens.
Et je vous remercie de m'avoir invité une fois de plus. Dani, c'était un plaisir de te retrouver.
Pareil.
Et puis, on se dit à dans un mois.
Exactement. Merci beaucoup, Jeff, d'avoir
Allez,
été
à
là.
Plus. Bonne
journée.
Ciao, ciao.
Ciao. Et donc, je parlais de contributions et de remerciements, et je ne vais pas me gêner pour, encore une fois, remercier les nombreuses personnes qui contribuent au Rendez-vous Tech sur le Patreon. Vous le savez, le Patreon, c'est ce qui vous permet de donner une petite somme, 1, 2, 3, 4, 5 dollars, ce genre de choses, pour chaque épisode. Vous vous inscrivez sur le site, et ensuite, quand un épisode est produit, la somme vous est comptée, et à la fin du mois, ça vous est retiré. Il y a des gens qui font l'effort incroyable de donner un petit peu de leur argent durement gagné au Rendez-vous Tech. Je remercie aujourd'hui donc Jack Suleiman, Jean-Philippe Daman, Moustique, Jahan Desberges ou Desberges, Watch TV, Marcel Bichon, Vivian Larieux, Toya, Matt C et Thomas. Merci à vous les gars, c'est vraiment adorable de votre part. Vous savez à quel point ça me fait plaisir et ça m'aide. Je remercie également tous les autres. Et entre parenthèses, on est en train d'arriver bientôt à la fin de la liste et on recommencera au début après. Donc si vous voulez être cité bientôt, n'hésitez pas à aller donner un petit, à vous inscrire sur Patreon. Évidemment, la première règle à respecter sur cette histoire de Patreon, c'est que vous êtes là sur la durée. Hein. C'est, je préfère largement quelqu'un. Je le dis souvent, mais je préfère largement quelqu'un qui donne un petit peu moins pendant longtemps plutôt que quelqu'un qui donne un petit peu plus mais qui va s'arrêter assez vite. C'est quelque chose de la stabilité est importante pour ce genre de choses. Et d'ailleurs, je disais, je vous invite chez moi, c'est quelque chose que un dialogue qui s'établit. C'est vraiment une chose en laquelle je crois, et en particulier pour ce type de média, beaucoup plus que pour d'autres, ne serait-ce même que pour YouTube, qui est quand même un média relativement personnel. Et j'ai fait sur le site de Patreon, justement, ce que j'ai appelé une grande consultation nationale où j'ai lancé une discussion qui a été hyper active. En fait, j'ai, comme à mon habitude, écrit un pavé interminable sur ce que je pensais de là où était le rendez-vous tech et là où il pouvait aller dans les semaines et dans les mois à venir, voire même dans les années à venir, comment on pouvait faire évoluer les choses et ce que pensait, ce qui intéresse les auditeurs. Alors, j'avais d'abord ouvert la discussion aux Patriotes, les gens qui contribuent, et puis évidemment je veux pas limiter ce genre de discussion aux seules personnes qui contribuent à l'émission, donc je l'ai ouverte ensuite à absolument tout le monde, et on a eu donc une grande discussion assez active. Je pensais pas que les gens liraient mon pavé interminable, comme je le disais, et il y a plein de gens qui ont donné leur avis, qui ont dit ce qu'ils en pensaient. Ça a été vraiment une discussion positive et constructive, et il en est ressorti à peu près en gros deux choses. Il y avait beaucoup de gens qui disaient différentes choses, mais les deux tendances que j'ai notées, c'est que les deux choses parmi la liste d'une dizaine de choses que je proposais, les deux choses qui ont intéressé les gens, c'était l'idée d'avoir parfois, pour les commentaires intéressants qui sont dits sur les épisodes précédents, le fait de les avoir dans l'épisode d'après, si ça apporte quelque chose, si c'est quelque chose de cohérent et une chose dont on n'avait pas discuté, un éclairage nouveau, des informations supplémentaires, on pourrait en parler dans l'épisode à venir. Et il y a un autre sujet, une autre proposition, c'était peut-être des mini vidéos d'explication sur YouTube, comme tu disais Dani, la question de la vidéo, c'est peut-être quelque chose que je vais essayer d'explorer à l'avenir, qui semblait plaire en tout cas parmi toutes les propositions. Étrangement, les choses comme le live ou les épisodes en vidéo ou l'augmentation du rythme de parution par exemple, c'était des choses qui plaisaient pas forcément à tout le monde. Contrairement à ce que j'aurais pensé, il y a des avantages bien sûr au fait d'avoir un live avec une chatroom et tout ça, mais ça demande énormément de boulot. Mais c'était pas quelque chose qui semblait séduire énormément de gens. Par contre, le fait d'avoir des petites vidéos de 3, 4, 5 minutes d'explication de sujets intéressants et importants sur la tech, des choses que vous pourriez partager avec des gens auxquels vous voulez diffuser ce genre d'informations importantes, peut-être que ça c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Donc on verra si je me mettrai à faire quelque chose de ce genre-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a aujourd'hui des commentaires très intéressants qui avaient été dits dans l'épisode précédent et que je vais vous lire à la fin de l'émission. Dernier petit compte-rendu sur cette interaction qu'on a ensemble. En début de semaine, bonjour mon cœur, ça va ? Bonjour. Quand je vous dis que je vous invite à la maison, il y a ma femme qui vient de rentrer, je vous dis bonjour, je lui dis bonjour et elle vous dit bonjour. En début de semaine, j'ai acheté les nouveaux composants de mon PC que j'ai d'ailleurs notamment acheté. C'était l'un des paliers du Patreon. Donc j'ai enfin acheté les composants et j'ai tweeté comme ça, je me suis dit, en fait, je vous explique, hein, j'ai appelé ma femme, je lui ai dit hey, « ça t'intéresse de voir un petit peu les composants du PC, ce que ça donne ?» Et elle m'a dit « ouais, non, bof, pas trop ». Donc je me suis dit « bah je vais me retourner vers mes chers auditeurs et mes followers sur Twitter et Google+, et tout ça ». Je me suis dit « bah je vais tweeter que je suis en train de faire du streaming sur mon… » J'avais une webcam sur le côté de mon montage de PC. Et je me suis dit, bah, on va voir s'il y a des gens qui sont intéressés par la chose. Et ben, j'ai été super surpris. Il y a, je sais pas, peut-être 30, 40, 50 personnes. Le maximum, c'était un peu plus de 50, mais qui ont suivi l'émission, enfin l'émission, le streaming du début à la fin, même à la fin, au bout de, ça a pris super longtemps, hein, ça a pris, je sais pas, peut-être deux heures et demie, et ben il y avait encore des gens qui regardaient le streaming. Il y avait 40, 45 personnes qui regardaient. Alors évidemment, moi, quand il y a les gens sont mis à regarder, je suis rentré en mode Patrick animation, j'essayais de rendre les trucs intéressants, je parlais de ce qu'étaient les différentes pièces, comment ça fonctionnait pour, quelle était la fonction dans le PC, ce que j'avais choisi, comment j'allais le monter, les problèmes que j'avais pendant le montage, etc. C'était super sympa à passer avec vous. Je mettrai les liens, le lien de la vidéo parce qu'elle n'est pas sur ma chaîne YouTube quand même, hein. Elle est en version privée, donc c'est uniquement quand on a le lien qu'on peut la voir. Je la mettrai dans les notes de l'émission si ça vous intéresse. Je ne sais pas pourquoi ça vous intéresserait, mais si ça vous intéresse, vous pourrez aller le voir. Et accessoirement, après avoir fait un montage parfait qui s'est super bien passé, j'ai réinstallé Windows, j'ai même pas eu besoin de réinstaller Windows. Eh ben, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui marchait pas avec mon nouveau matériel, un seul, c'était la connexion à mon micro. Le truc le plus important dont je peux pas me passer. Bilan, j'ai dû retourner à la boutique. Ils sont en train de tester la carte mère, etc. On va voir si ça, si la carte mère est utilisable finalement ou pas. J'y retourne demain. On verra ça. Mais c'était super frustrant parce que tout s'était super bien passé, même pas besoin de réinstaller Windows, machin. Et le truc important qui ne marche pas. Les
joies
des PC montés, exactement. Je sais que tu me dirais, mais Patrick, enfin, achète-toi un Alienware, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile.
Oui. Mais bon, j'ai quand même monté pas mal de PC en montant, donc c'est vrai. Je ne peux pas jeter la pierre, mais je sais que des fois, c'est vraiment frustrant.
Bah, mon problème, en fait, c'est que j'avais déjà toute une partie du PC que je voulais. Et d'autre part, moi, j'aime monter mon PC. On le sent pas forcément toujours dans le rendez-vous tech, hein, dans l'émission, mais... Je suis un vrai geek de chez geek, quoi. Je suis pas genre le genre de mec. Enfin, je suis le genre de type comme ça qui monte son PC lui-même. Et je voulais avoir exactement le PC que je veux, mais avec le. Je n'utilise pas le radiateur qui vient avec le processeur. J'ai un radiateur différent, Cooler Master, machin, un truc énorme. C'est le truc pour refroidir le processeur qui chauffe beaucoup, qui est un des éléments qui chauffe le plus. Et ben moi j'ai. Je remplace le radiateur et le ventilateur par un truc à moi, tu vois, c'est ce genre de truc.
Et celui de la carte graphique, est-ce que tu l'as remplacé ?
Non, j'ai acheté une carte graphique à l'époque avec déjà un refroidissement passif qui n'a pas de ventilateur qui fait du bruit. La raison pour laquelle je veux tout ça... Pardon ?
Il y en a encore des cartes à refroidissement passif ?
À l'époque où je l'ai acheté, il y en avait, mais je l'ai acheté il y a peut-être 3 ans. Mais c'est pour ça que j'attends d'ailleurs les prochaines cartes graphiques qui, avec les processeurs graphiques Broadwell de Nvidia, qui consomment beaucoup moins, je me dis qu'on aura peut-être à nouveau des processeurs, enfin des cartes à refroidissement passif qui ne feront pas de bruit. Voilà. Bref, si vous n'avez pas eu assez pendant ces 10 minutes de tergiversation technique et que vous en voulez plus, on aura les liens vers la vidéo en question dans les notes de l'émission. Je vous encourage à aller les voir. Et si vous ne voulez pas vous emmerder à monter votre PC vous-même, je vous recommande les PC Alienware qui, en plus, payent le salaire de mon ami Danny.
On croirait que tu fais de la pub, là.
Je ne suis pas payé par Alienware, malheureusement. J'aimerais bien, mais bon. Voilà, je dis pas ça parce qu'il est là, les PC Alienware, ils sont très bien. Et on va donc continuer avec nos news et rumeurs rapides pour conclure l'émission. On va commencer avec un rapport qui a été révélé il y a quelques jours à peine sur les 25 applications mobiles les plus populaires. Et évidemment, vous vous en doutez, l'application la plus populaire, c'est Facebook, avec une confortable avance sur la deuxième. Ils ont 115 millions d'utilisateurs en juin 2014, c'est aux US uniquement, hein. Donc 115 millions, vous vous rendez compte, c'est presque la moitié de la population américaine. Et la deuxième app, c'est YouTube, avec 83 millions d'utilisateurs. Entre parenthèses, c'est les visiteurs uniques âgés de plus de 18 ans. C'est un rapport édité par Comscore, qui est un site de tracking extrêmement important. Donc, Facebook premier avec 115 millions. Ensuite, YouTube avec 83 millions, uniquement âgés de plus de 18 ans. Je sais pas comment ils comptent ça, mais c'est leur statistique. Ce qui est intéressant à noter, c'est que Facebook est premier. Et ensuite, on a YouTube, Google Play, Google Search, Pandora, qui sort de nulle part, qui est un service de musique en ligne, Google Maps, Gmail, Instagram, donc un petit peu Facebook, et ensuite c'est d'autres choses, Apple Maps, Yahoo, iTunes, Facebook Messenger, etc. Mais donc ce qu'il est intéressant de noter, c'est que Facebook est premier de loin, mais ensuite on a 1, 2, 3, 4, 5 services Google dans les 10 premiers. Donc c'est une domination absolument sans partage, bah sans partage de Facebook et de Google en même temps en fait. J'ai trouvé ça assez intéressant. Je sais pas si tu m'interromps, hein, Dany.
Il y a vraiment, il y a vraiment de toute façon pas grand chose surprenant là-dedans en fait. Moi juste à part Pandora qui me qui m'a fait sourire, j'étais assez surpris de voir ça dans la liste. Le reste finalement, somme toute, c'est pas vraiment une grande surprise. Hein.
C'est pas faux.
D'ailleurs, entre toi et moi, je pense que ce sont les apps dont on sert le plus sur un smartphone au cours de la journée. Tu vois, c'est.
Bah moi, j'utilise pas énormément. Non, moi, si je devais donner les apps que dont je me sers le plus, Facebook, je m'en sers pas tellement en fait. Un petit peu, mais pas énormément. Moi, c'est plutôt Twitter, Reader, R-E-E-D-E-R, qui est mon lecteur de flux RSS. AlienBlue, qui est mon lecteur de Reddit. Cette communauté de news très importante, Downcast pour les podcasts, et puis l'application musique sur le l'iPhone, et aussi Gmail bien sûr. Mais c'est mes apps principales, moi.
Ouais.
Et tiens, Dany, donne-nous les tiennes tant qu'on y est. Regarde ton téléphone, c'est plus facile.
Voilà, je regarde mon téléphone. Je me sers pas mal de Twitter, de Line.
Tu te sers de Line ?
Ouais, j'aime bien Line, c'est pratique.
Bon, ok.
Et
Line encore.
Bah ouais, le reste, Facebook aussi un petit peu. Je me connecte quasiment que par le biais de mon smartphone sur Facebook.
Ouais.
Sur un PC, j'y touche quasiment jamais.
D'accord. Très bien. Bon bah effectivement, rien de bien surprenant là-dedans. Mais est-ce que tu serais prêt à utiliser comment il s'appelle ? C'est Neighborhood ? Je crois qu'il s'appelle. Ah non, c'est Nextdoor. Écoute, Nextdoor.
Nextdoor. Oui, mes voisins, ils doivent avoir, je pense, 85 ans de moyenne d'âge. Donc,
bon, pour expliquer
disons, pour,
ce que
pour
c'est.
Pour le principe, je suis prêt à l'essayer, mais.
Pour expliquer ce que c'est, on en avait parlé il y a très longtemps. C'est un sujet que je trouve assez intéressant. Enfin, un service que je trouve assez intéressant. C'est le Facebook local, en fait. Nextdoor, c'est le Facebook pour le quartier. Et ils ont annoncé qu'aujourd'hui, un quartier, entre guillemets, sur quatre, aux États-Unis, utilise Nextdoor, ce réseau social. Il n'est pas disponible en France encore, mais on se dit souvent que, grâce aux réseaux sociaux, on a la possibilité de se connecter avec des gens dans le monde entier. Et finalement, on se connecte pas avec les gens qui sont à côté de nous. Bon, c'est pas tout à fait vrai parce qu'avec Facebook, c'est souvent avec les amis et la famille, et d'ailleurs avec d'autres services aussi. Mais c'est intéressant ce concept de réseaux locaux. Et moi, je pense que le jour où Nextdoor arrivera en France, je l'essayerai, ne serait-ce que pour voir ce que ça donne. C'est quelque chose qui
m'intéresse. J'ai une question. C'est sans doute bête, hein, mais pourquoi est-ce que t'as besoin d'un réseau social pour aller parler à tes voisins ?
Mais parce que personne va parler à ses voisins.
Bah voilà,
à la limite. Non, mais à la limite.
Ça changerait quelque chose ?
Bah à la limite tu irais parler à tes voisins de palier, mais tu vas pas aller voir les gens qui sont enfin tu vois dans les autres immeubles
de chez
toi.
Ça, c'est sûr, oui.
Bah voilà, donc c'est vraiment une question de
quartier.
Moi
je pense
qu'il
faut déjà j'ai un défi pour que tu le relèves d'ici le prochain épisode, c'est que tu ailles parler 5 minutes avec chacun de tes voisins dans ton immeuble.
Bah écoute,
tu connais leur prénom.
Bah bon, donc ok, les prénoms c'est compliqué, mais j'ai emménagé il y a 3 mois maintenant, et bah j'ai déjà discuté avec 2 ou 3 de mes voisins. Oui, bon, c'est pas un exploit non plus, hein, mais
oh, c'est honorable.
Voilà, le premier smartphone à 20 ans. Alors je vous laisse imaginer la tête qu'il a, le smartphone qui avait 20 ans, c'était 1994, hein. Bon, c'est smartphone avec des grosses guillemets, hein. C'est pas vraiment un truc qui va vous permettre d'écouter de la musique sur votre téléphone ou de surfer sur internet, mais 1994, le premier smartphone.
Il était tactile en plus.
Oui, non mais c'est ça, il était tactile et il coûtait $1000. Vendu dans une quinzaine d'États aux États-Unis.
C'est assez raisonable, hein, pour un.
Bah ouais. Bon, c'est $1000 de l'époque, hein. Ouais. Oui, c'est $1000 de l'époque, c'était
mais
un
mais
petit
bon,
peu
à l'époque,
plus
un PC,
que...
c'était 2 à 3 fois plus cher que ce que c'est maintenant aussi, donc
c'est vrai.
Si tu compares, c'est pas monstrueux.
Oui, bon, en même temps, comme je vous disais,
il est
disais,
vraiment
il
pourri.
Pas il est pas beau du tout, c'est vrai. On va peut-être donner son nom quand même, comment il s'appelait. C'était un conçu par IBM, il était basé sur MS-DOS, il pesait 500 grammes. C'est plus qu'un iPad, c'est le IBM Simon Personal Communicator. Il pouvait afficher un calendrier, recevoir des emails. Je disais qu'il va pas sur Internet, c'est pas tout à fait ça. Et se connecter à un fax. Il avait un écran LCD tactile qu'il utilisait. Il permet d'avoir un traitement de texte rudimentaire. C'est PCWorld.fr qui nous a fait cet article. Voilà, il s'en est vendu 50 000 unités à l'époque. Pas vraiment un succès incomparable. YouTube, on parlait d'eux avec Twitch. Eh ben, ils n'ont pas eu Twitch, mais ils se rabattront peut-être sur MusicKey, qui est leur fameux service d'abonnement à la musique, qui serait en train, en phase de finalisation. Il y aurait, donc c'est un service YouTube par abonnement qui permettrait d'avoir de la musique hors ligne, avec de l'audio en tâche de fond, donc évidemment pour écouter de la musique même quand on ne regarde pas la vidéo, pas de pub, etc., etc. Donc une certaine quantité de services assez classiques mais appliqués à YouTube. Voilà, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant. Ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose. La musique est extrêmement importante sur YouTube, mais c'est la musique. Enfin, comment dire, c'est un service qu'ils doivent trouver un moyen d'intégrer parce que c'est une opportunité énorme. Et oui, ça peut nous paraître bizarre d'avoir YouTube qui fait de la musique uniquement en audio aujourd'hui, mais il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas plus qu'autre chose. YouTube est extrêmement populaire, donc. Voilà. Et accessoirement, ils auraient peut-être des concerts, des remixes et ce genre de choses qui seraient disponibles sur YouTube et de la musique donc exclusive. La possibilité de faire des remixes, par exemple, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Ensuite, Microsoft Windows 9 qui pourrait arriver en version preview le 30 septembre. Entre parenthèses, je suis désolé, c'est peut-être, je sais plus qui m'a dit que Windows 9, on en parlait la dernière fois, qu'il ne serait pas gratuit pour les utilisateurs de Windows 8, mais seulement pour les utilisateurs des systèmes précédents. Je me demande si c'est pas Kassim de Lifetile. Peut-être que c'est lui. Et qui me disait, non, en fait, c'est parce que, a priori, la gratuité pour les utilisateurs de Windows 8 est presque actée. C'est presque acquis déjà. Donc, bon, ça sera peut-être gratuit pour tout le monde, finalement.
On en parlera quand le produit sera annoncé et l'offre sera vraiment publique.
C'est vrai.
Pour l'instant, c'est... Mais donc, bon, je suis curieux de voir ce que ça va donner, en tout cas.
C'est ça. Ça serait annoncé le 30 septembre avec une preview déjà disponible à ce moment-là. Un casque de réalité virtuelle pour Samsung, on en a parlé déjà, il ressemble un petit peu au Google Cardboard, en fait c'est un simple support sur lequel on vient glisser un téléphone qui ensuite avec des systèmes logiciels vous permet de voir les choses en réalité virtuelle. Pourquoi pas, hein, a priori il n'y a pas de raison que ça ne soit pas intéressant. Quoi d'autre? Tac, il y a plusieurs informations pas forcément essentielles. Il y a des chercheurs ont parlé du fait de pouvoir écouter des sujets, enfin écouter quelque chose qui se passait dans une pièce en analysant la vidéo la dernière fois. Eh bien, oui, c'était une technologie incroyable. Eh bien, aujourd'hui, on a entendu des chercheurs qui réussissaient à écouter des conversations en analysant les mouvements des gyroscopes de votre téléphone, qui agiraient comme une sorte de micro-microscopique. Voilà, on ne pourra plus rien cacher à personne.
Dans le prochain scandale politique.
Voilà, exactement.
La délice du gyroscope.
Il y a un procès en groupe, je ne sais plus comment ça s'appelle.
Mon cœur, class action en réunion, procès en groupe.
Ah, procès collectif peut-être. Action collective, voilà. Oui,
merci.
Action collective donc contre Facebook qui a été initié par un Autrichien, j'allais dire un Australien, qui a déjà 25 000 personnes qui ont signé et 35 000 de plus qui disent qu'ils seraient intéressés par l'idée de participer à ce procès s'il avait lieu finalement. Donc il y a une grosse action contre Facebook qui a quelques semaines pour répondre. L'action est initié et et ils peuvent répondre. A priori, ils risquent de ne pas devoir répondre, mais enfin, ils risquent de ne pas répondre, de choisir de ne pas répondre. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un procès qui est basé sur la violation de la vie privée, le partage avec la NSA, etc. en fait partie, mais ça, c'est pas forcément la partie la plus forte. C'est surtout l'utilisation des données dont les utilisateurs n'étaient pas assez clairement informés. Si c'est quelque chose qui vous affecte ou qui vous paraît important, eh ben, je vous encourage à aller voir ce procès, vous pourrez trouver sur internet assez facilement, hein, à aller voir le procès et peut-être même à vous inscrire. C'est quelque chose qui est accessible à tous les citoyens européens, donc voilà, vous pourriez participer à la chose. Et je dis souvent qu'il est important d'agir quand on a ce genre de problème et pas simplement de s'en plaindre sur internet ou sur Twitter. Je dis contactez vos députés, contactez vos parlementaires, c'est quelque chose d'important. Et ben là, vous pouvez aussi faire agir sur cette chose-là. Ensuite, de quoi parle-t-on? Le fameux Ice Bucket Challenge. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Je pense que
oui,
c'est
sûr.
Difficile.
Moi, j'ai beaucoup aimé celui de Bill Gates.
Oui, il était pas mal. Alors pour ceux qui savent pas, le Ice Bucket Challenge, c'est un coup marketing finalement d'une association qui combat la maladie de Lou Gehrig, qui est une maladie de dégénérative nerveuse, en anglais c'est ALS, qui a commencé à initier un truc qui est devenu viral, qui était l'idée que vous alliez proposer des défis à n'importe qui, et la personne défiée devait soit se verser un seau d'eau glacée avec des glaçons sur la tête, soit donner de l'argent à l'association. Et je ne sais pas comment, c'est parti dans les hautes sphères de la technologie, et tous les plus grands présidents, directeurs généraux de toutes les sociétés, et maintenant c'est allé carrément plus loin, tout le monde est en train de le faire. D'ailleurs, c'est devenu, en fait, en 3 jours, c'est passé de super marrant et cool à un petit peu relou. Mais bref, celui de Bill Gates, bah justement, tu pourrais le décrire, Dany.
Et bah Bill Gates, juste au lieu de verser le seau d'eau glacée sur lui comme l'ont fait les 99% des gens qui ont relevé le défi, lui, il a décidé carrément de construire une machine qui, en tirant juste sur la corde, permettait de faire basculer le seau et de verser l'eau sur sa tête. Voilà, donc il a monté, il a fait preuve de son talent en physique.
De designer, d'ingénieur,
ouais. Et pour faire vraiment quelque chose d'original. Donc c'était assez bien. Ouais.
C'était marrant parce que c'était fait avec beaucoup d'humour, évidemment. C'était le truc où il faisait je trace deux trucs, et c'était fait n'importe, enfin comme le diagramme était hyper simpliste, etc. C'était fait avec de l'humour, donc c'était pas mal, effectivement. L'autre qui m'a plu, c'est celui de Destiny, qui est un jeu vidéo qui va sortir dans 2 semaines maintenant, et qui a fait, dans le jeu, en fait, les développeurs du jeu créé, qui étaient les anciens développeurs de Halo, des gens très très connus bien sûr, ils ont fait dans le jeu un monstre du jeu qui envoie l'eau depuis la lune, et il y avait une blague avec That wizard came from the moon, et là c'était The bucket came from the moon, depuis la lune, il l'a envoyé sur le personnage qui est en train tranquillement d'attendre et qui comprend pas ce qui se passe, et ils ont défié d'autres personnages de jeux vidéo, ce qui était très drôle. Et entre parenthèses, bien sûr, tous les gens qui ont fait, les gens connus qui ont fait tout ça, ont bien sûr donner de l'argent à l'association aussi. Donc au final, c'est une très bonne opération pour tout le monde. C'est le genre de truc marrant. Bon, maintenant c'est terminé, je pense que c'est pas mal que ça soit terminé, mais c'est le genre de truc marrant qui profite à tout le monde finalement, pourquoi pas. Dernière chose, l'annonce de l'iPhone 6 devrait avoir lieu le 9 septembre, a priori. La date n'a pas été confirmée, mais c'est celle qu'on entend à droite à gauche depuis un moment. On essaiera peut-être de faire un upload live avec Cédric et Jérôme. Peut-être on verra si c'est possible ou pas, mais on va essayer en tout cas de faire un upload live pour couvrir cet événement ensemble. Ça pourrait être marrant. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de live, et c'était pas parce qu'on voulait pas, hein, c'était une question de temps et d'énergie et de préparation. Donc là, on essaiera de le faire. On verra ce que ça donne.
J'ai du mal à voir ce qu'Apple va annoncer, en fait, parce qu'il y a tellement d'informations qui ont déjà filtré. Il y a eu tellement de leaks que finalement, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir dire de nouveau qui n'a pas
rien,
déjà été filtré, voilà.
Rien, on sait déjà tout. Il y a quelques questions dont on n'est pas sûr, mais non, on sait déjà tout. Mais c'était déjà le cas, hein, dans les 2, 3, 4 années précédentes, donc c'est pas très surprenant non plus.
Je pense que vu la popularité de leurs produits, c'est un vrai défi que de garder le secret jusqu'au bout.
Exactement, ouais. Et donc, si on n'a pas ce live, on aura un débrief de toute façon de l'event, quoi qu'il arrive. Et accessoirement, pour les fans de Motorola, il y a sans doute une annonce pour des nouveaux téléphones. Ah oui, oui, il y en a quelques-uns, surtout pour la smartwatch, la Moto 360. Ça serait le 4 septembre, donc un petit peu avant. Et puis, il y aurait d'autres choses qui arriveraient du côté de Samsung aussi, dans cette période, dans cette semaine début septembre. Donc, tout le monde essaye de profiter de la rentrée et se vole un petit peu la vedette. Pendant les deux premières semaines de la rentrée. Voilà pour les informations du rendez-vous tech numéro, on est combien, 140. C'est le dernier épisode d'août. La prochaine fois, ça sera la rentrée, comme je le disais, avec tout plein d'informations hyper, hyper importantes sur l'actualité de la tech, des vraies informations ce coup-ci. Donc, on se retrouvera à ce moment. Évidemment, avant qu'on ne se quitte, Dany, ça fait bien longtemps que tu n'es pas venu sur le rendez-vous tech. Est-ce que tu veux dire aux auditeurs où ils peuvent suivre une personne de qualité comme toi qui a qui travaille pour une marque aussi incroyable qu'Alienware?
Et oui, bien sûr, je suis sur Twitter. Bon, j'ai dû faire 3 posts depuis le début de l'année, mais...
Reviens sur Twitter, Dany, tu sais que c'est bien
mieux
que
tout le reste.
Mais
je consulte Twitter tous les jours, par contre.
Ouais, c'est vrai que de temps en temps, tu fais des petits messages. À chaque fois qu'il y avait un truc qui t'était adressé, tu répondais.
Exactement. Donc même si je suis pas très très actif parce que j'étale pas forcément ma vie dessus, en contrepartie je lis et des fois ouais quand ça m'amuse ou quand ça m'intéresse, je réponds, c'est sûr. Et donc mon Twitter c'est NotDany.
Ah mais d'où as-tu bien pu trouver ce
c'est moi
surnom.
Qui ai créé ce pseudo.
Ah, attention
cette pièce.
Hein. Attention,
ensuite, d'autres
attention.
Gens se sont jetés dessus comme des vautours.
Bon, et pour ma part, c'est Note Patrick. Vous le savez bien depuis le temps que je vous le répète. Note Patrick sur Twitter et ailleurs. Vous pouvez aussi, bien sûr, contribuer au Rendez-vous Tech en allant sur patreon.com/rdvtech ou plus simple lrdv.fr, lerendezvous.fr. Et vous savez que nous apprécions chaque centime que vous contribuez au fonctionnement de cette émission. Je vous remercie infiniment encore de votre participation. Je remercie Dany et @Jeff qui ont participé à cet épisode. Et on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao à tous.
Merci à tous. Ciao.
Mais enfin, mais non, voilà que j'oublie pour le premier épisode où je voulais donner des commentaires des épisodes précédents. Voilà que je les oublie. Non, je suis toujours là et on va voir les deux commentaires que j'avais sélectionnés, c'est-à-dire celui de Tuto qui nous parlait de ces ondes qui pouvaient transmettre de l'énergie et on se demandait si ça pouvait être dangereux ou pas. Eh bien, il nous dit « Bonjour, je rejoins mon camarade sur la nature des ondes. Il faut vraiment différencier les ondes électromagnétiques, micro-ondes, infrarouges, lumière, UV, rayons X, rayons gamma, etc., qui sont des manifestations pures d'énergie, plus ou moins énergétique, disons puissante et potentiellement dangereuse en fonction de leur nature, la durée d'exposition, etc. Et une onde mécanique, comme le son par l'air, ou une vague, un tremblement de terre, etc. Si on peut se noyer ou mourir d'un ou mourir d'un étage qui nous tombe sur la tête, ça reste des effets indirects de ces ondes qui sont loin d'avoir le potentiel nocif de leur sœur photonique. Si quelqu'un de pénible vous parle pendant longtemps, vous pouvez mourir d'ennui, mais pas par l'air, mais pas de l'air qui l'aura fait vibrer. Donc voilà, merci pour cette petite explication Tuto qui faisait référence à quelqu'un d'autre qui avait aussi laissé des commentaires. Effectivement, il faut pas confondre les deux types d'ondes. Le son, c'est de la vibration d'air. Donc après, a priori, c'est pas vraiment dangereux. Deuxième commentaire que j'avais sélectionné, c'était celui de Nicolas B. qui nous faisait une référence à Minecraft que j'avais essayé d'expliquer et je disais que Minecraft était une sorte de kit de Lego géant et virtuel pour les enfants. Eh bien, il m'a envoyé vers un nouveau truc assez incroyable qui a été fait dans Minecraft, c'est-à-dire un disque dur fonctionnel de 1 kilobit. Alors, c'est pas beaucoup 1 kilobit, mais il n'empêche. Il me disait donc, toi qui essayais de décrire ce qu'on pouvait accomplir avec Minecraft, cet exemple est assez impressionnant. En fait, c'est un utilisateur de Minecraft qui a utilisé différents matériaux, et notamment la redstone, la pierre rouge, qui permet de faire des circuits, comme on en parlait la dernière fois, et qui a construit en fait une sorte de piston qui a deux états, ben, soit le piston est dans une position, soit dans l'autre, et ça fait des bits qui ont les deux états, soit 0, soit 1, et donc ça simule un bit, et comme il en a mis 1000 ensemble, avec différents systèmes pour les faire passer d'un état à l'autre, eh bien, c'est l'équivalent, en fait, d'un disque dur dans ce jeu virtuel, qui est Minecraft. Alors, il y a d'autres personnes qui ont fait des disques durs encore plus gros. On a vu des disques durs de 4 kilobits. Donc, ça veut dire 4000 de ces pistons qu'il a construits et placés dans cet univers virtuel. La question qui reste à résoudre, c'est de savoir quand quelqu'un créera dans Minecraft un ordinateur qui réussit à jouer à Minecraft. Au revoir. Bye.